Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la reprise des frappes israéliennes au Liban, riposte à des tirs de roquettes. Les violences se reprennent après le cessez-le-feu intervenu en novembre dernier. Cette fois dans la bande de Gaza, l'armée israélienne appelle à évacuer un quartier de Rafah dans laquelle se trouvent selon elle des terroristes. En Turquie, un juge ordonne l'incarcération pour corruption du maire d'Istanbul. C'est aussi le principal opposant au président Erdogan. Son arrestation a déclenché une vague de contestation. Les dernières frappes de la Russie ont fait au moins 3 morts et 10 blessés. C'est à Kiev. À la veille de pourparlers prévus en Arabie Saoudite, le président ukrainien appelle ses alliés à faire pression pour mettre fin à la guerre. On assiste dans le sud du Liban à l'escalade la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'était le 27 novembre dernier. Des tirs de roquettes non revendiqués vers l'État hébreu ont provoqué hier une riposte meurtrière de l'armée israélienne. Bilan, 8 morts, dont une fillette syrienne et plus d'une quarantaine de blessés. Les précisions à Beyrouth de Paul Khalife.
Un calme tendu règne au Liban ce matin après une journée difficile qui a rappelé aux Libanais les pires moments de la guerre. Les avions israéliens ont mené samedi en soirée une deuxième vague de raids qui a visé 10 localités dans le sud du Liban, dont un bâtiment dans la ville côtière de Tyr. L'aviation a également poussé vers le nord de la plaine orientale de la Beka, où elle a détruit un pont reliant le Liban et la Syrie. L'armée libanaise, chargée par les dirigeants du pays de mener une enquête approfondie pour identifier les auteurs des tirs, a saisi dans le sud 3 rampes de lancement de roquettes de fabrication artisanale. Pointé du doigt dans un premier temps par certaines personnalités politiques, le Hezbollah a nié toute implication dans ces tirs et réaffirmé son attachement au cessez-le-feu. Son principal allié, le président du Parlement Nabih Berri, avait appelé toutes les parties au Liban à ne pas créer de prétexte pour Israël et à se rallier à l'État et ses institutions. C'est la deuxième fois que des roquettes sont tirées sur la Galilée depuis le cessez-le-feu, alors qu'Israël a violé l'accord plus de 1500 fois, selon Nabih Berri. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
La France, par la voix du ministre des Affaires étrangères, a condamné les tirs de roquettes tout en appelant Israël à la retenue. L'armée israélienne a par ailleurs appelé les habitants d'un quartier de Rafah dans le sud de la bande de Gaza à évacuer, un quartier dans lequel se trouvent, selon elle, des terroristes. Autre grand titre dans l'actualité du jour, la Turquie, où un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui est aussi le principal rival du président Erdogan. Sa comparution au tribunal, avec 90 co-accusés, a mobilisé hier soir encore de très nombreux manifestants, et la décision du juge a toutes les chances d'attiser cette colère. Correspondance à Istanbul, Dan Handlauer.
C'est une décision qui ne suscite aucune surprise, mais qui ne manquera pas de provoquer beaucoup de colère à travers la Turquie, où les opposants au pouvoir se mobilisent déjà massivement depuis 4 jours. Ekrem İmamoğlu, dont le parquet avait réclamé l'incarcération, est accusé de diriger une organisation criminelle. Il est poursuivi dans le cadre de 2 enquêtes, l'une pour corruption et l'autre pour aide à un groupe terroriste, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'emprisonnement ayant été prononcé dans le cadre de la première enquête, et non pour les charges de terrorisme, les autorités turques ne devraient pas mettre sous tutelle la plus grande ville du pays, dans l'espoir peut-être d'apaiser un peu ou de garder sous contrôle les tensions dans la rue. Le conseil municipal d'Istanbul, aux mains de l'opposition, devrait élire dans les prochains jours un nouveau maire. Tandis que les soutiens d'Ekrem İmamoğlu se préparent à nouveau à manifester, les membres de son parti, le CHP, ont commencé à voter ce matin dans le cadre d'une primaire pour désigner leur candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Ekrem İmamoğlu est seul en lice ce dimanche. C'est donc le candidat du plus grand parti d'opposition turque que la justice a emprisonné. Anadolu, Istanbul, RFI.
La Russie fait savoir qu'elle aborde dans un état d'esprit combatif et constructif les négociations prévues demain en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis. Ces négociations ont été précédées d'une attaque russe meurtrière ce matin à Kiev. Au moins 3 personnes ont été tuées, 10 autres blessées dans cette attaque de drones contre la capitale ukrainienne. Le président Zelensky appelle ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre. La voix d'Amérique est en sursis. L'administration américaine a coupé le financement de ce média international, suivi par quelques 300 millions d'auditeurs. Certains journalistes ont déjà reçu leur avis de licenciement. D'autres, placés en congé administratif, ignorent s'ils retrouveront leur poste. Réduit au silence par des clauses contractuelles, nos confrères craignent des représailles s'ils parlent. Mais peu à peu, Christina Okello, les premiers témoignages brisent le blackout.
Nous savons que nous allons perdre nos emplois, mais nous devons rester assez silencieux. Témoignage amer d'un salarié de VOA placé en congé administratif, un statut qui l'empêche de s'exprimer publiquement. Un ancien cadre décrit des collègues désemparés, tournant en rond, sans savoir de quoi demain sera fait. Certains ont déjà reçu la notification des licenciements, d'autres explorent des recours légaux pour contester cette décision. Car derrière ces suppressions de postes, des familles restées au pays, des prêts en cours et l'angoisse d'un avenir incertain. Mais pour beaucoup, le dilemme reste le même, se taire et subir ou parler au risque de perdre définitivement leur emploi. VOA ne disparaîtra pas complètement, mais sa version future sera drastiquement réduite. La loi américaine interdit une fermeture totale sans l'aval du Congrès, mais selon plusieurs sources, le personnel et les opérations seront réduits au strict minimum. L'entreprise pourrait perdre jusqu'à 90% de ses effectifs, la rendant presque inopérante. Un vide dangereux avertit un salarié qui ne fera que renforcer ceux qui veulent contrôler l'information, selon lui.
C'était Christina Okello. On reste aux États-Unis où Donald Trump a lancé un important programme sur un nouvel avion de combat. Le 47e président des États-Unis a décidé qu'il s'appellerait F-47. Rien au monde ne pourra rivaliser avec lui, a-t-il insisté, mais ce n'est pour l'heure qu'un prototype, Franck Alexandre.
Le F-47, c'est un appareil de 6e génération, furtif comme l'actuel F-35 de Lockheed Martin, mais qui en plus aura la capacité d'être accompagné de drones. Dans un environnement aérien de plus en plus contesté, où la supériorité aérienne n'est plus acquise, ces drones auront la mission de percer les défenses adverses. Lancé en 2015, ce programme fut mis en pause pour une raison de coût, mais la récente présentation de démonstrateurs chinois de 6e génération est venue bouleverser les équilibres et relancer le projet. Un projet de plus de 20 milliards de dollars qui a été confié à Boeing et il tombe à pic pour le constructeur américain, fragilisé par les déboires de son appareil de transport civil Dreamliner. Un prototype du F-47 existe déjà. L'armée de l'air américaine espère s'équiper très prochainement et c'est aussi une façon pour Washington de relancer la course technologique pour distancer et épuiser le compétiteur chinois. Une inconnue cependant, le F-47 connaîtra-t-il le même succès à l'export que le F-35, notamment auprès des Européens, échaudé par le contrôle qu'impose à distance Washington sur ses équipements stratégiques?
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense à la rédaction. Le pape François sort de l'hôpital ce dimanche. Il sera resté hospitalisé plus de 5 semaines à l'hôpital Gemelli de Rome pour une double pneumonie. François, 88 ans, doit rentrer cet après-midi au Vatican, où selon ses médecins, il entamera une convalescence d'au moins 2 mois. L'annonce surprise de ce retour tant attendu par les fidèles a été faite hier soir par l'équipe médicale de l'hôpital Gemelli. Cinéma maintenant avec le film Aïcha à l'affiche en France. Mehdi Barsaoui brosse le portrait d'une jeune Tunisienne qui a pris un accident, saisit l'occasion d'une seconde vie. Elisabeth Le Quéré.
Jusqu'où peut-on aller pour conquérir sa liberté? Employée dans un hôtel, Aïa travaille comme une bête de somme pour payer les dettes de sa famille qui veut lui faire épouser un riche divorcé. Seule survivante d'un accident de bus, elle saisit l'opportunité pour disparaître et se réinvente une nouvelle vie à Tunis sous un faux nom. Mais il suffit qu'un soir, un homme la reconnaisse en boîte de nuit et voilà Aïa piégée face à d'autres formes d'oppression, de chantage et de corruption policière. Aïcha pose la question du courage, de la résilience et du désir d'indépendance d'une jeune femme, telle que le patriarcat s'acharne à les décourager. Avec ce nouveau long métrage, Mehdi Barsaoui dessine un portrait au scalpel de la société tunisienne en lui donnant la forme séduisante d'un thriller. Sans doute, le film se repose-t-il un peu trop sur la performance magnétique et le charisme de son actrice, Fatma Sfar, mais sa force n'en demeure pas moins réelle.
Le film Aïcha du cinéaste Mehdi Barsaoui, donc à l'affiche en France. Enfin, football, les Bleus au pied du mur après leur cuisante défaite 2-0 en Croatie, c'était jeudi. Les Bleus de Didier Deschamps condamnés à l'exploit ce soir, match retour au Stade de France. Au programme également dans cette Ligue des Nations, les matchs Espagne-Pays-Bas, Portugal-Danemark et Allemagne-Italie, tous à partir de 19h45, temps universel. C'est la fin du journal, très bonne journée sur RFI.